question dont la réponse en étonnera plusieurs. Combien de siècles de véritable paix l'homme a-t-il vécu jusqu'à date? Le grand livre de Dieu va nous parler de la véritable paix et de la fausse paix aujourd'hui à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, préparons-nous à recevoir tout un enseignement une fois de plus aujourd'hui. Alors que le livre de l'Apocalypse va répondre aux questions que voici. Qu'est-ce que la bête à 10 cornes représente dans l'Apocalypse? Que représentent ses 7 têtes? Quelle est la définition du blasphème? Quand la bête paraîtra, l'Église de Jésus-Christ sera-t-elle encore sur la terre? Satan a-t-il le pouvoir de ressusciter les morts? Est-ce que les âmes perdues vont ressusciter un jour? Comment la bête séduira-t-elle le monde dans l'avenir? Ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ croiront-ils aux mensonges de la bête? Combien de siècles de véritable paix l'homme a-t-il vécu jusqu'à date? Est-ce que le monde entier adorera Satan un jour? Demeurez avec nous, nos réponses s'en viennent. Le pasteur Jean Joly va nous les donner alors qu'il nous enseignera la parole de Dieu dans quelques instants. Mais premièrement, prions. Merci Seigneur, jour après jour tu nous enseignes ta parole. Tu nous aides à la comprendre. Tu nous as donné ton Esprit Saint pour saisir ce que tu veux nous dire. Merci, mon Dieu. C'est tout ce qu'on peut dire. Merci et parle-nous encore aujourd'hui. Amen. À toi, Réjean.
Merci, Caro. Chers amis, à la dernière émission, nous avons débuté l'étude du chapitre 13 en ébauchant la pièce maîtresse de Satan, la bête. Il mettra tout son pouvoir en elle afin de tromper le monde. Chers amis, lisons Apocalypse chapitre 13, verset 1. « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphèmes. » Les 10 cornes. Cette bête est une représentation de l'Empire romain. Beaucoup de gens pensent que l'Empire romain s'est éteint il y a plusieurs siècles, mais en réalité, il a survécu en s'introduisant dans l'Église au 4e siècle sous l'empereur Constantin. Rome a progressivement perdu son pouvoir terrestre, mais au temps de la Grande Tribulation, sa puissance politique lui sera redonnée. Elle régnera de nouveau sur le monde pendant un court temps. Les cornes sont les 10 rois qui règnent sur chacune des parties de l'Empire romain reconstitué, comme nous le verrons plus tard au chapitre 17, verset 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ces royaumes, héritiers de l'ancien empire romain, n'existaient pas au temps de l'apôtre Jean. Et rien ne prouve qu'ils existent en ce moment. Tout ce que nous pouvons affirmer avec certitude, c'est qu'ils existeront au temps de la grande tribulation. Certains commentateurs contemporains fonctionnent avec l'assertion que la grande tribulation est pour bientôt. Je le répète, rien encore ne nous permet de l'affirmer. Mais évidemment, ces auteurs n'ont pas résisté à la tentation d'identifier ces 10 royaumes avec l'Union européenne. À sa création, cette union comptait 6 pays adhérents avec plusieurs candidats en liste. Certains ont affirmé que lorsque cette union atteindrait le chiffre fatidique de 10, la prophétie serait accomplie et que la bête apparaîtrait alors. Depuis, ce chiffre est largement dépassé. À date, l'Union européenne compte 27 pays membres et toujours pas de bête à signaler. Du moins, pas dans le sens apocalyptique du mot. Depuis la chute de l'Empire romain en tant qu'entité politique, plusieurs hommes et organisations ont tenté d'unifier l'Europe. Parmi eux, nous pouvons mentionner Charlemagne, l'Église catholique romaine, le Saint-Empire romain germanique, Napoléon, le Kaiser Guillaume et le Troisième Reich. Bien que l'actuelle Union européenne se soit rendue plus loin que toutes ces autres tentatives, rien ne prouve que la prophétie soit sur le point de s'accomplir. Toutefois, il faut bien avouer que cette réunification pourrait bien être un autre jalon préparatoire à l'avènement de l'Antéchrist. À la dernière émission, nous avons lié la première bête de l'Apocalypse à la petite corne du 7e chapitre du livre du prophète Daniel. Lisons les versets 7 et 8. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici. Il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort, et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Rappelons-nous que le quatrième animal est l'Empire romain et que les 10 cornes sont 10 rois. Après ces 10 cornes sort une autre corne, plus petite, qui arrache 3 des 10 premières cornes. Il semble qu'après avoir fait tomber 3 rois, les 7 autres se soumettront à la petite corne, qui deviendra alors le dictateur du monde. Les 7 têtes. Voilà pour les 10 cornes et l'autre plus petite. Voyons maintenant les 7 têtes. Car la bête de l'Apocalypse possède 10 cornes et 7 têtes. Selon Apocalypse chapitre 17, versets 9 et 10, ces 7 têtes sont aussi 7 rois. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, 1 existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Les 10 rois représentés par 10 cornes n'ont pas encore reçu de royaume. Ils en recevront seulement au temps de la grande tribulation. Par contre, parmi les 7 rois représentés par les 7 têtes, 5 sont tombés, 1 existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Ces 7 rois pourraient être 7 empereurs romains, dont 5 ont existé avant l'époque de l'apôtre Jean. Le 6e serait Domitien, qui régnait au temps de Jean, et le dernier serait la bête, puisqu'il doit rester peu de temps. Une autre interprétation des 7 rois veut qu'ils soient les 6 grandes nations de l'Antiquité qui ont blasphémé Dieu. Rome, la Grèce, l'Empire Médo-Perse, la Chaldée, l'Égypte et l'Assyrie, en plus du royaume à venir de la bête. Une 3e interprétation suggère que les 7 têtes correspondent aux 7 têtes du dragon qui symbolise sa sagesse exceptionnelle, comme nous l'avons déjà vu. Satan confère alors sa puissance au dernier dictateur. Personnellement, je ne pense pas qu'il soit absolument essentiel d'opter pour l'une ou l'autre de ces interprétations. Nous devons cependant retenir que ces 7 têtes sont toutes coupables de blasphème. Selon Govet, le blasphème s'exprime de 2 manières. Premièrement, lorsqu'on cherche à se faire l'égal de Dieu en usurpant sa place. Deuxièmement, en calomniant et en prenant en vain le nom de Dieu. Plusieurs empereurs romains se sont rendus coupables de la première forme de blasphème. Ils exigeaient du peuple un culte égal à celui de leur Dieu. L'empereur Domitien était particulièrement pointilleux là-dessus. Il est possible que l'apôtre Jean ait été exilé sur l'île de Patmos précisément pour cette raison. Il refusait de rendre un culte à l'empereur et il encourageait les autres chrétiens à suivre son exemple. Les pharisiens se rendaient coupables de la 2e forme de blasphème, car ils blasphémaient le Saint-Esprit. La bête de l'Apocalypse se rendra coupable des 2 formes de blasphème. Une redoutable puissance. Apocalypse chapitre 13, verset 2. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Avant d'aller plus loin, une courte récapitulation s'impose. Nous devons particulièrement prendre garde à ne pas confondre la bête avec un animal. La bête de l'Apocalypse est la 11e corne, plus petite, qui paraîtra sur le 4e animal de la vision du prophète Daniel, qui représente l'Empire romain. Revenons sur cette vision de Daniel chapitre 7, versets 4 à 6. Le premier animal est semblable à un lion. Il représente l'Empire babylonien. Le 2e animal est semblable à un ours. Il représente l'Empire des Mèdes et des Perses. Le 3e animal est semblable à un léopard. Il représente l'Empire grec. La bête de l'Apocalypse, elle, est semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. En d'autres mots, la bête est issue du quatrième animal, mais elle possède aussi des caractéristiques des trois premiers animaux. En résumé, les quatre empires babyloniens, médo-perses, grecs et romains sont présents dans une seule personne. Et comme si ce n'était pas assez, la bête reçoit du dragon, c'est-à-dire Satan, sa puissance, son trône et une grande autorité. Soyons bien clairs sur une chose. Aucun personnage historique n'a jamais été doté d'un tel pouvoir maléfique. Comparé à la bête, Adolf Hitler était un petit minet. Et je remercie le ciel d'être chrétien, car j'ai alors la certitude que, lorsque la bête paraîtra, je serai mort ou enlevé avec l'Église. Entrons maintenant dans les détails. Premièrement, dans l'Apocalypse, la bête que je vis était semblable à un léopard. Voyons maintenant le prophète Daniel, chapitre 7, verset 6. Après cela, je regardai, et voici un autre animal était semblable à un léopard. Cet animal représente l'ancien empire grec et macédonien. La Grèce était remarquable pour sa brillance et son avancement culturel, particulièrement au niveau des arts et des sciences. Sa philosophie, son architecture et sa littérature, autant théâtrale que poétique, étaient remarquables. La francophonie est largement tributaire de la culture grecque. L'empire de la bête aura tous les aspects extérieurs de la culture qui faisaient la gloire du classicisme grec. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Et son parallèle, que nous retrouvons dans Daniel chapitre 7 verset 5, « Voici, un second animal était semblable à un ours. » C'était l'empire des Mèdes et des Perses, notable pour sa splendeur païenne. Il a acquis d'incroyables richesses en vainquant des rois comme le légendaire Crésus. L'empire de la bête piétinera tout sur son passage, comme l'ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Voyons maintenant son verset parallèle dans Daniel chapitre 7, verset 4. « Le premier était semblable à un lion, et avait des ailes d'aigle. Je regardai jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Le roi de Babylone possédait un pouvoir illimité. Lorsque le roi Nebuchadnezzar a ordonné la mort de tous ses sages et conseillers, personne n'aurait pu remettre en question son autorité. Et la bête règnera avec l'autocratie et l'autorité dictatoriale des rois babyloniens. Le dernier tyran du monde atteindra l'apogée de son pouvoir sous l'autorité de Satan. Ce dernier lui conférera sa puissance, son trône et une grande autorité. Il y a 2000 ans, Dieu s'est incarné dans la personne de Jésus-Christ. Si Satan détient ce pouvoir, il l'utilisera pour entrer dans la bête. Rappelons-nous que Satan peut entrer dans un être humain pour le posséder. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 22, verset 3, il est entré dans Judas Iscariote. Le Seigneur Jésus emploie un langage similaire lorsqu'il s'adresse à l'apôtre Pierre, dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 16, verset 23. Je pense que Satan s'incarnera dans la bête. Il entrera certainement en lui, si on en croit 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 9 et 10. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Le coup de grâce. Apocalypse, chapitre 13, verset 3. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Ce verset a conduit plusieurs personnes à conclure que Satan pouvait, comme Dieu, ressusciter des hommes de la mort. Apocalypse 17, verset 8, a ajouté de l'eau dans leur moulin. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, et qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. Mais remarquez bien l'expression « comme blessée à mort ». Cette résurrection n'est qu'un simulacre, et seuls ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie se laisseront duper. Satan ne détient pas le pouvoir de ressusciter les morts, car il ne l'a pas reçu de Dieu. Seul le Seigneur Jésus peut le faire, comme il en témoigne lui-même dans l'Évangile selon Jean chapitre 5, versets 21, versets 25 et versets 28 et 29. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Seul Jésus peut détenir le pouvoir de ressusciter tous les hommes. Certains ressusciteront pour la vie éternelle, mais d'autres ressusciteront pour le jugement. La restauration de la bête est donc une fausse résurrection. Satan ne peut pas donner la vie ou la redonner. Il peut seulement la dérober, car il est un meurtrier depuis le début. Comme nous le verrons au chapitre 20 de l'Apocalypse, versets 11 à 15, les âmes perdues ressusciteront pour être condamnées pour l'éternité. La mort est seulement une étape temporaire. Les élus ressusciteront pour jouir de la parfaite présence de Dieu pour l'éternité, et les damnés ressusciteront pour être tourmentés par son absence pour l'éternité. Il est indéniable que l'Église primitive croyait que la bête pouvait ressusciter, même si elle divergeait d'opinion sur son identité. Certains pensaient qu'elle était Judas Iscariote, d'autres qu'il s'agissait de l'empereur Néron. Même Augustin s'y est laissé prendre, comme on peut le voir dans l'extrait suivant. Que signifie la déclaration à l'effet que le mystère de l'iniquité agit déjà? Certains supposent qu'il s'agit de l'empereur romain et dont l'apôtre Paul en parlait à mots couverts, bien qu'il se soit toujours attendu à ce que les gens comprennent ces paroles, comme s'appliquant à Néron, dont les actions paraissaient semblables à celles de l'Antéchrist. Certains se doutaient donc qu'il ressusciterait comme l'Antéchrist. D'autres commentateurs ont exprimé le point de vue que la bête se réfère à l'Empire romain. La forme impériale de gouvernement et son pouvoir terrestre, qu'on croyait anéanti pour toujours, sera restauré de façon renversante. C'est également mon avis, mais je ne crois pas qu'on puisse parler pour autant de résurrection. Rome n'est pas morte. Elle s'est simplement écroulée avec fracas. Le mensonge. Un jour, à la stupéfaction générale, l'Antéchrist rapiécera les morceaux. L'Empire romain sera revitalisé et rendu cohérent d'une manière miraculeuse sous la puissance du dictateur. Mais il y a plus. La bête sera comme blessée à mort. En d'autres mots, elle imitera une résurrection. Ce sera le grand mensonge de la grande tribulation et le monde s'y laissera prendre. Avant de commencer l'étude du verset 3, nous avons cité 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 9 et 10. Ce passage mentionne l'apparition de l'impie qui, par la puissance de Satan, séduira avec des miracles mensongers ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Si vous n'avez pas encore reconnu la bête de l'Apocalypse, écoutez la suite au verset 11 et 12. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. On peut difficilement être plus clair. Ils n'ont pas cru à la vérité de la résurrection de Jésus-Christ, mais ils ne se feront pas prier pour croire au mensonge de la résurrection de la bête. Je le répète, la bête est possédée d'une jalousie maladive à l'égard de Jésus-Christ. Elle cherchera donc à singer tout ce que le Fils de Dieu a accompli. Revenons à notre verset de l'Apocalypse. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Cela démontre bien l'imitation blasphématrice de la mort et de la résurrection de Jésus. Ce blasphème dans la bouche et la pensée de la bête sera « Qu'est-ce que Christ a fait de plus que moi ?» Et puisque personne ne peut dupliquer la résurrection de Jésus, il cherchera à l'imiter. Il mettra ses ressources considérables à contribution et il parviendra à tromper le monde. Voilà en quoi consistera son mensonge. Les croyants proclameront « Jésus est ressuscité !» et la prétention des impies sera de rétorquer « L'Antéchrist aussi ». L'Empire romain reprendra du service sous la main cruelle de la bête qui aura contrefait la résurrection. Et un monde crédule qui aura rejeté Jésus s'empressera de glorifier le faussaire. À mesure que nous avançons dans le livre de l'Apocalypse, le portrait de l'Antéchrist sera complet. Au chapitre 6, nous avons vu que le cavalier blanc apportait une fausse paix au monde. L'histoire de l'humanité a enregistré 1500 guerres et 8000 traités de paix. À travers les siècles, l'homme a seulement vécu un total de 2 à 3 siècles de véritable paix. Déjà aujourd'hui, les politiciens aiment élaborer leur plateforme électorale sur une promesse de paix. Mais l'Antéchrist sera le maître incontesté de ce petit jeu de bluff. Il fera miroiter au monde l'espoir d'une paix durable, et cela lui donnera un pouvoir sur toutes les nations. J'aimerais le répéter une autre fois, afin d'éviter d'être mal compris. Lorsque je parle de l'Empire romain et de Rome, je vise un système de croyances humanistes basé sur la civilisation grecque classique. Je ne vise pas une dénomination chrétienne en particulier. Ce n'est pas une religion qui sauve, mais le fait de se repentir de ses péchés et de recevoir par la foi le Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais maintenant citer cette remarquable déclaration de l'évêque catholique romain Fulton J. Sheen. L'Antéchrist viendra sous l'aspect d'un grand humaniste. Il parlera de paix, de prospérité, d'abondance, non pas comme des moyens de nous rapprocher de Dieu, mais comme des fins en elles-mêmes. Il dissipera la culpabilité en utilisant des termes psychologiques. Il suscitera la honte chez ceux qui ne partagent pas sa soi-disant largesse d'esprit. Il répandra le mensonge que les hommes ne peuvent pas s'améliorer avant d'avoir amélioré la société. Je suis tout à fait en accord avec cette déclaration de l'évêque Sheen. La divinité assumée de la bête. Notre dernier texte pour aujourd'hui, Apocalypse chapitre 13, verset 4. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Le moment suprême de Satan est arrivé. Rappelons-nous qu'il désire l'adoration des hommes au-dessus de toute autre chose. Et là, le monde entier l'adorera pendant ce court temps. Ne nous berçons pas d'illusions. Si l'Esprit de Dieu nous retirait aujourd'hui sa bienfaisante présence, j'ai bien peur que les églises se videraient à la vitesse de l'éclair. Et si l'Antéchrist paraissait, nous le suivrions comme un petit chien trottine derrière son maître. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Dans une grotesque parodie de l'adoration du véritable Dieu, le monde se vantera d'adorer quelque chose de plus grand et merveilleux que le Dieu de la Bible. Remercions Dieu de nous avoir donné le discernement de distinguer le vrai du faux, de nous donner cette capacité méritée d'apprendre à la connaître dès maintenant et de profiter de sa présence pour l'éternité. Oui, chers amis, remerciez Dieu d'avoir écouté cette émission, du moins de l'avoir entendue, parce que la vérité se trouve dans un livre, la Bible, et ce livre vous est maintenant expliqué. À la lumière de ce que vous venez d'entendre, vous pouvez prendre une décision. La décision maintenant de lire la Bible et de pouvoir être affranchi du péché par la liberté. Cette liberté vous rendra réellement libre. Parole du Seigneur Jésus. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant l'Apocalypse, chapitre 13, les versets 5 à 15. À vous tous, bonne lecture!
Merci beaucoup, Régent. J'ai été vraiment étonné quand tu as dit qu'à travers les siècles, l'homme n'avait vécu qu'un total de 2 à 3 siècles de véritable paix. Je trouve ça horrible. Et je suis d'accord avec toi quand tu dis que les politiciens aiment élaborer leur plateforme électorale sur une promesse de paix. On voit ça quotidiennement aux nouvelles, surtout lors des campagnes électorales au Canada et aux États-Unis. Par contre, mes amis, ce que je trouve merveilleux, c'est que dans notre monde actuel, alors qu'il y a plusieurs guerres en cours sur cette terre, et que même dans notre environnement, il y a toutes sortes de chicanes, plein d'insécurité, plein de désespoir, plein de gens qui se déchirent, eh bien, il est possible d'avoir la paix. La paix qui surpasse toute intelligence, comme nous l'enseigne la parole de Dieu. Par exemple, je connais une chrétienne qui est réellement fidèle au Seigneur, qui le sert dans son église, qui est bonne envers les gens, qui cherche continuellement à aider ceux qui souffrent. Cette personne a toutefois un mari qui ne connaît pas Dieu et qui ne veut pas le connaître. Cet homme abuse cette femme verbalement, presque chaque jour. Et si vous voyez cette femme, soit à l'église ou à son travail, vous ne pourriez pas deviner tout ce qu'elle subit à la maison. La raison est toute simple. Cette femme est une enfant de Dieu. Quand le Seigneur s'est présenté à elle et qu'elle a compris ce qu'elle devait faire pour recevoir le pardon de ses péchés et le don gratuit de la vie éternelle, elle a accepté Jésus comme sauveur personnel, et non seulement comme sauveur, mais comme Seigneur, c'est-à-dire comme maître de sa vie. Or, je ne vous dirai pas qu'elle ne souffre pas, mais elle a appris à accepter sa situation et à s'en remettre à Dieu seul, qui un jour lui fera justice. Elle a confiance en Dieu. Elle croit en ses promesses. Par exemple, au 14e chapitre de l'Évangile de Jean, au verset 27, Jésus dit ceci: « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Au premier verset du même chapitre, Jésus dit quelque chose de semblable. Il dit « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. » Eh bien, mon ami, as-tu reçu cette paix de Dieu? Crois-tu en Jésus, en celui qui donne la vraie paix? As-tu reçu le pardon de tes péchés? Tu sais, la Bible dit que tous ont péché. Donc, toi aussi, tu dois te repentir, changer de direction à l'égard du péché. Mon ami, je t'invite à recevoir Jésus comme ton sauveur personnel. Il a payé la dette de ton péché en mourant sur la croix. Et il est ressuscité le troisième jour. Jésus est vivant et il s'invite dans ton cœur. En ce moment, il frappe à la porte de ton cœur et dit que si tu l'entends, si tu ouvres la porte, il va vivre une vie d'intimité avec toi. Il va souper avec toi. Alors, il s'invite dans ton cœur. Demande-lui tout simplement de te sauver. Demande-lui de te donner la vie éternelle. Crois qu'il va le faire et il va le faire. Et pour nous, les croyants, la parole de Dieu nous encourage à ne nous inquiéter de rien, à faire connaître tous nos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. C'est une promesse de Dieu. Ce que Dieu promet, il l'accomplit, mon frère. Il l'accomplit, ma sœur. Alors soyons sans inquiétude. Croyons que Jésus prend soin de chacun de nous.
Chers amis, ces émissions, ces messages suscitent en vous des questions, des réflexions? Vous aimeriez en recevoir les réponses?
On veut recevoir vos appels. Ça nous intéresse vraiment d'entendre vos réflexions.
Nous avons une équipe toute prête à les recevoir.
Ce sont des gens qui connaissent la parole de Dieu. Ils vont vraiment vous renseigner sur tous les points que vous voulez savoir concernant la Bible, tout ce qu'on peut lire dans les Saintes Écritures.
Ces gens sont disponibles 24 heures sur 24. Ce sont des gens bien engagés.
Ils attendent vos appels. Appelez-les, vous ne serez pas déçus, c'est certain.
Oui, toi qui vis avec ce questionnement, ne sois pas gêné. Fais-le. Rejoins ces gens qui sauront t'aider.
T'as besoin d'amour? Il y a juste Dieu qui peut te le donner. Et c'est à travers ces gens qui va te communiquer cet amour. Appelle. Appelle maintenant.
Voici nos coordonnées. Par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647. Et à notre adresse courriel.
www.radioespoir.ca. Et à l'adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Chers amis, au revoir.
Bye-bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.